Facebook.
Que pensez-vous de l'investiture du président américain Donald J. Trump? C'est la question de cette semaine dans cette émission. Aujourd'hui, c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique en direct de Washington, la grande capitale américaine. Attachez vos ceintures de sécurité, nous allons décoller dans un instant. Let's go. Une émission de Maverick en direct de Washington, la capitale américaine. C'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Oui, l'investiture de Donald J. Trump en tant que 47e président des États-Unis suscite des réactions variées à travers le monde. De nombreux dirigeants internationaux ont adressé leurs félicitations, exprimant leur volonté de collaborer avec la nouvelle administration américaine. Cependant, cette investiture intervient dans un climat de division interne et de préoccupations internationales. Des manifestations, d'ailleurs, s'y sont déroulées le week-end dernier. J'y étais moi-même, des gens qui étaient pour ou contre le gouvernement ou le président actuel, et aussi dans d'autres villes américaines, réfléchissant les tensions politiques actuelles. Qu'en pensez-vous, les amis, vous, chers auditeurs de VOA Afrique, vous qui nous captez chaque soir entre 20h et 21h, temps universel? N'oubliez surtout pas que vous pouvez envoyer vos réactions audio ou écrites sur les réseaux sociaux, sur mes comptes Facebook, Twitter ou X, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est au plus 1-703-350-3731. Pour ceux-là qui veulent m'écrire sur WhatsApp, c'est au plus 1-703-350-3731. Dans cette émission, bien sûr, nos programmes habituels. Il y aura le Word of the Day avec Michel Joseph. Il y aura l'actualité avec Jean-Louis Afema. La blague du jour, Lionel Runanira Gaïma se joindra à nous à la fin de cette émission pour vous faire marrer comme on le fait si bien. Toujours dans l'ambiance, en écoutant de la bonne musique, nous aurons un invité ce soir qui nous vient du Canada. D'ailleurs, il est venu spécifiquement pour participer à l'investiture de notre président des États-Unis. On en parlera dans cette édition de RM Show. N'oubliez surtout pas, c'est au plus 1-703-350-3731. Vos dédicaces dans RM Show, c'est aussi chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Donc n'hésitez pas de m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vais vous lire en live, en direct. C'est au plus 1-703-350-3731. Elle s'appelle Sia. Elle nous chante Alive.
was humbling me. I took and I took and I took what you gave, but you never noticed that I was in vain. I knew what I wanted, I went out and got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that I would never be forgotten. I know that for you.
Vous écoutez RM Show, une émission de Beafrique en direct de Washington, la capitale américaine. Si vous êtes en train de nous capter, je vous dis déjà merci infiniment de rester à l'écoute de cette émission. Cette belle voix, c'était la belle voix de Sia, de son vrai nom, Sia Keita, qui est aussi Isabelle Furle, qui est une chanteuse, une grande chanteuse, compositrice et productrice australienne, arrivée ici aux États-Unis où elle cartonne aujourd'hui. Elle est reconnue pour sa voix puissante et distinctive, ainsi que pour son style musical unique, mélangeant pop, électro, mais aussi soul. Jean-Louis Mafema nous rejoint, bien sûr. Jean-Louis, bonsoir à Jean-Louis Mafema. Si ton micro s'allume, merci à Jean-Louis. Est-ce qu'on peut aussi avoir, voilà, il y a aussi Jean, j'ai deux Jean aujourd'hui, Jean-Louis. Nous avons Jean Thier, mais c'est les Jean
Tchéboué.
Tchéboué. Jean Tchéboué nous vient du Canada, c'est notre invité de ce soir. Jean Tchéboué, messieurs, Jean Tchéboué, comment vous allez? Et merci d'être là aujourd'hui, ce soir, pour nous rendre visite.
Merci, Olivier.
Alors, qu'est-ce qui vous amène ici à Washington, monsieur Jean?
Alors, je suis venu pour l'investiture de monsieur Trump, pour assister, comme je fais la communication et le diplomatie internationale. Je suis passionné de la politique internationale. Vous savez que l'Amérique est un pays puissant dans le monde. Tout ce qui passe en Amérique, ça affecte aussi d'autres pays. Je voulais, moi, je suis au Canada il y a beaucoup de temps, mais je n'ai jamais participé.
Ah, d'accord, après toutes ces années au Canada.
C'est la première fois, mais wow. je regardais ça à la télé.
À la télé, bien sûr.
Mais je dis, bon,
cette année,
je vais y aller pour moi-même voir.
Ouais.
Et j'ai vu la sécurité que je n'ai jamais vue dans le monde.
C'est vrai, hein? Oui. C'est vrai, parce que je vous ai vu hier aussi à côté de la Maison Blanche, et vous m'aviez un peu soufflé. Cette sécurité-là n'était pas n'importe quelle sécurité.
Non, c'était hors norme. Je peux dire hors norme, mais c'était une sécurité qu'il ne fallait pas jouer. Ça dépasse même la sécurité à l'aéroport, partout. Tout ce qu'on avait comme bâton, tout ça, on devait laisser pour passer à une autre rue. Et je voyais que les gens étaient confinés de zones. Si tu es dans la zone d'une rue à l'autre, tu ne peux pas traverser. Et c'était vraiment, c'était vraiment intense. Il y avait des chiens, il y avait la police, la sécurité. J'ai lisé les noms, vraiment, il y avait beaucoup.
Jean-Louis, monsieur Jean Tchéboué est en train de dire cela. Vous avez couvert ici pour nous-mêmes, pour nos infos ici dans RM Show, que la situation sécuritaire au pays ces derniers temps était quand même à désirer. C'est pour ça, c'était quand même important que les services de sécurité prennent
la relève
pour bien sécuriser le président et toute son équipe.
Absolument. Nous, ici d'ailleurs, en fin de compte, nous avons reçu la sécurité minimale parce que au départ, si ça s'était fait à l'extérieur, à cause du froid, ils ont fait ça à l'intérieur. Si c'était fait à l'extérieur, il y avait tout l'immeuble, notre bloc, le bloc entier, était couvert, 48 km de clôture, ils ont mis. Et les services secrets seraient à l'intérieur de l'immeuble, même pour se déplacer, pour aller à la toilette, il fallait avoir sa carte. Donc c'était vraiment sérieux. Ils avaient bloqué tout. Nous, on a un toit où des fois, nous nous trouvons sur le toit. pour faire des couvertures parce qu'on voit le Capitole juste derrière nous. Mais il y avait la sécurité, je crois, il y avait peut-être plus de 25 000 hommes, rien que pour la sécurité
dans la ville.
Tout ça, dans la ville.
Ouais.
Mais comme ils sont partis à l'intérieur, alors ils ont réduit ça, mais on n'a jamais rien vu de pareil. De tous les temps que je suis ici, et on a couvert des investitures comme ça, on n'a jamais vu le niveau de cette année ici, c'est incroyable.
Et il faut dire que Jean, lui, est ici, ça fait au moins 50 ans.
On en a vu des historiques, Obama, quand il est devenu président, il y avait 1 million de personnes, dans une ville de 700 000 personnes, il y avait 1 million de personnes qui se sont ajoutées subitement ce jour-là, et ils étaient tous ici autour de nous. C'était incroyable qu'on n'a jamais vu. Mais la sécurité de cette année-ci, c'était aussi vraiment quelque chose de...
Exactement. Merci à Lionel qui est en train de jouer d'ailleurs les images qu'on est en train de voir là derrière. Ce sont des images
de
l'investiture. En parlant de l'investiture, que pensez-vous de l'investiture du président américain? On l'a dit au début de cette émission que l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis suscite des réactions variées à travers le monde. De nombreux dirigeants internationaux ont d'ailleurs adressé leurs félicitations, exprimant leur volonté de collaborer avec la nouvelle administration américaine. Cependant, cette investiture intervient dans un climat de divisions internes et de préoccupations internationales. Des manifestations étaient prévues le week-end dernier. Là, nous sommes en train de voir comment ça s'est déroulé. Ça, c'est même la famille de vice-président Vince, n'est-ce pas, qui avec sa femme, là où il prêtait serment avant même, lui il prête serment avant que le président, là on voit le président Joe Biden, pour les amis qui le suivent sur... sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Et du coup, ça m'amène directement à la question de la semaine à Monsieur Jean. Que pensez-vous, Monsieur Jean, de l'investiture d'abord du président américain?
Ah bon, le président américain, moi, je félicite d'abord, c'est le peuple américain qui l'a élu. Les gens peuvent faire, ils peuvent dire ce qu'ils disent, mais il a été élu par la population, par le peuple américain. Aujourd'hui, il est le premier citoyen américain. La politique change, c'est comme nous sommes dans un monde où il y a l'évolution et la mentalité aussi doit changer. Les acteurs politiques, chaque acteur vient avec sa stratégie. C'est-à-dire avec M. Trump, il a sa stratégie qui est différente avec celle de l'Europe. Alors, ceux qui ne peuvent pas s'atteler à la manière de l'évolution de la politique, ils restent en arrière. Bon. J'ai dit hier, il a promis, il vient d'entrer, mais il a pris parmi, dans son cabinet, des gens des riches. Est-ce que ces riches doivent partager la richesse? La question, la réponse, c'est attendons après 4 ans. Attendons après 4 ans, ce qu'il va faire.
Attendons après 4 ans ce qu'il faut faire, mais il faut dire aussi que le pays, vous le savez si bien, est divisé. Il y a beaucoup aussi qui ne sont pas nécessairement pour sa politique, par exemple, de l'immigration. Beaucoup de démocrates qui ne sont pas pour, Jean-Louis, tu as d'ailleurs suivi aussi, qu'il y a beaucoup qui ne sont pas pour sa politique.
Oui, mais ce qui est normal en démocratie.
En démocratie,
oui. Oui, on a toujours les deux pôles, il y a un pôle à droite et un pôle à gauche, et puis on essaie d'établir l'équilibre. Je crois l'essentiel, si le peuple gagne, alors oui, alors la mission a été remplie, parce que l'important c'est le peuple, ce que le peuple ressent, ce qu'il vive, et c'est ce qui sera au fait après les 4 ans, ce qu'on aura pu déterminer, est-ce que ça va ou bien ça ne va pas, bon ça sera déterminé à partir de ce moment-là, mais comme on dit, il faut toujours donner la chance à tout le monde de pouvoir prouver. Peut-être que sa politique, c'est la politique qu'il faut pour les États-Unis en ce moment.
Mais
bon, c'est possible.
Vous voulez ajouter quelque chose?
En parlant de l'immigration, vous savez que ces points touchent aussi beaucoup de pays, même au Canada, même en France. Le grand problème de l'immigration, parce que ceux qui viennent, moi aussi je suis immigrant, mais canadien, mais les gens ne s'intègrent pas. Il y a beaucoup de banditisme. Alors, il faut qu'on freine cela. Et comment le faire? Il faut que nos frères, nos sœurs puissent s'intégrer. D'abord, il faut qu'on puisse... Chaque pays a droit de protéger ses citoyens. Chaque pays a droit. C'est comme je suis là, vous êtes là, vous avez droit de protéger votre famille, vos enfants. Il est le premier citoyen. Il doit protéger d'abord les Américains. Qu'on veille ou qu'on ne veille pas, c'est comme ça la politique. On doit d'abord assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. La circulation libre, la démocratie, lorsqu'on parle de la démocratie, comme Jean l'a dit, nous devons laisser le temps aux autres de faire le travail au lieu de les juger avant. C'est la peur. Mais lorsqu'il y a une peur, on lance. Chaque personne qui va assumer une fonction dirigeante, il aura des critiques et il ne fera tout, pas tout. Tout ce que M. Trump, le président a dit, il ne va pas accomplir tout. D'abord, dans son mandat, il va prendre une année ou deux ans que l'autre a laissé. Il y a des trous qu'il va un peu mater. Il a commencé déjà à signer depuis hier, mais après les trois ans, dès qu'il se réveille, il dit « Oh, je n'ai pas le temps ». C'est comme ça avec la politique, et c'est comme ça que ça marche.
Mais Jean, apparemment, d'après beaucoup, cette investiture a des implications pour l'avenir des relations internationales, parce que certains leaders européens, par exemple, appellent à une Europe plus unie et souveraine face aux défis posés par la nouvelle administration américaine.
Dans la politique internationale, il y a
vous qui connaissez très bien la politique
internationale. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la force.
Oui.
C'est-à-dire le pouvoir de la force. Dans la politique, on ne fait pas pour donner à son adversaire du gâteau. On veut prendre de soi. Il faut que son pays puisse émerger, puisse.
Et donc chaque pays regarde ses intérêts.
Ses intérêts. Mmh. Il regarde ses intérêts. Et M. Trump, en ce moment ici, il a aussi sa manière de travailler. Il paie, il taquine. Quand les autres ont peur, c'est pour qu'ils arrivent à une négociation. Dans la politique, il y a une négociation. C'est comme avec l'histoire des 25%. Il a attaqué le Canada, il a attaqué ceci. Il veut que maintenant, lorsqu'ils vont se mettre à la table, qu'on puisse maintenant discuter et qu'on lui donne ce qu'il a besoin. Mais c'est à l'intérêt de qui? C'est à l'intérêt de la population américaine.
Bon, moi, j'aimerais vous poser une question. Bon, par rapport à l'Afrique, qu'est-ce que vous pensez que sa politique pourrait être par rapport à l'Afrique? Qu'est-ce que les Africains, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre de la politique de M. Trump maintenant? Je ne sais pas si vous avez un peu réfléchi sur ça, en tout cas j'ai essayé.
Par rapport à l'Afrique, quand nous regardons d'abord à son premier mandat, il ne s'est pas beaucoup intéressé. Mais je peux dire que l'Amérique, c'est comme une gendarme du monde. Il ne s'est pas intéressé à la politique africaine. Mais ce que je pourrais dire, que en ces temps, les dirigeants africains doivent d'abord se prendre eux-mêmes d'abord en charge, faire des efforts de ne pas toujours regarder l'Occident, de ne pas toujours regarder l'Amérique. Oui, comme il a eu des conseillers, si cette fois-ci, je ne sais pas comment il va. Il a parlé sur l'immigration, mais dans son discours, il n'a pas regardé beaucoup l'Afrique. Bon, comme il a un peu de conseillers, je ne sais pas à la longue s'il va changer. Mais comme la première fois, il ne s'est pas intéressé, je ne pense pas qu'il va encore.
Moi, je trouve que la donne a un peu changé au fur du temps, les 8 dernières années, parce que la Chine est en train vraiment de s'implanter en Afrique et de créer beaucoup d'alliances. La Russie aussi. Militairement, la Russie est très impliquée en Afrique maintenant, comme on voit en Centrafrique, un peu au Mali, et tout. Mais vous ne croyez pas que l'Amérique devrait aussi un peu voir, parce que l'Afrique est quand même un continent qui fournit beaucoup de matières premières et stratégiques au monde entier. Donc, pour créer cet équilibre, vous ne croyez pas qu'il devrait avoir un peu un œil un peu plus
regardant sur
l'Afrique?
Mais il doit avoir un œil, parce que quand on regarde les informations, il y a déjà la France qui perd un peu certains pays de l'Afrique.
Oui,
alors, l'Afrique est devenue comme un gâteau où il faut aller prendre. Ouais. C'est comme je le disais tout au commencement, dans la politique étrangère, il y a ce qu'on appelle les rapports de force.
Ouais.
Il faut maintenant que les États-Unis, en ce moment, qu'on ne laisse pas de blagues, et qu'on puisse mettre les rapports de force, qu'on puisse faire une politique étrangère africaine, aider aussi ces pays, parce que beaucoup ont tourné vers la Russie et vers la Chine, parce que lui, les a fait comme le sauveur. Mais quand on regarde avant ces pays, la Russie et les États-Unis, c'était de puissance. Et ce sont de puissance maintenant. Maintenant, chaque puissance maintenant veut maintenant conquérir. Surtout la Russie avait perdu beaucoup des États africains. Maintenant, il est...
Ça, ça va reconquérir, effectivement.
Oui, voilà. Voilà, voilà.
Et moi, je crois aussi qu'un des problèmes qui pourrait aider dans l'immigration, en fait, c'est d'aider ces pays, vraiment les pays africains en particulier, à pouvoir vraiment se développer en leur offrant l'expertise. Parce que le plus de travail on peut créer en Afrique, je trouve qu'il y aura moins de gens qui sont à immigrer vers l'Occident, par exemple. Ça, c'est une chose auquel je crois qu'ils devraient penser aussi. Je dis que si on arrive à aider ces pays, en fait, je ne sais pas si c'est par force, mais en tout cas, arriver à les convaincre donc, que vous devez faire du bien pour vos populations, de manière à ce que... Parce que quand il y a des emplois, les jeunes ne vont pas se mettre en mer pour aller vers l'Occident ou chercher à traverser les montagnes d'Amérique latine pour arriver ici.
Est-ce que Jean Tchéboué a dit aussi, chaque pays doit d'abord regarder ses intérêts, d'abord commencer par là. Le président Donald Trump s'est mis au travail dès ce matin, déjà, de son retour à la Maison Blanche, on a vu ce matin annonçant de nombreux décrets présidentiels sur des questions de premier plan telles que l'immigration, l'énergie. Dans son discours d'investiture d'ailleurs, il en a parlé, il a promis d'étendre le territoire américain jusqu'à Mars.
Oui, ça c'est possible, ça arrivera. Maintenant, oui, je crois que la NASA, par exemple, avait eu quelques difficultés à un moment donné, mais il y a un monsieur qu'on appelle Elon Musk qui vient subitement avec son SpaceX et ils sont capables maintenant de lancer des fusées. Et croyez-moi, il va bénéficier énormément de ça.
Parce que c'est
de bonne guerre.
Mais il y a un fusée, on m'a dit que ça c'était détruit, le lancement qu'ils ont fait dernièrement là.
C'est eux qui sont en première ligne maintenant parce que la NASA ne lance plus les navettes spatiales qu'elle lançait il y a quelques années. Et elle dépendait maintenant au fait des maisons de l'industrie de SpaceX pour lancer.
Le président a dit les États-Unis se considéreront à nouveau comme une nation en croissance, une nation qui accroît ses richesses, étend son territoire, construit ses villes, élève ses attentes et porte son drapeau vers de nouveaux et magnifiques horizons. Et nous poursuivrons notre destinée manifeste dans les étoiles en lançant des astronautes américains pour planter la barrière étoilée sur la planète Mars.
Oui, moi, c'est la conquête du territoire qui me fait un peu peur parce que ça dépend. Tu sais, il y a conquête et conquête. Il y a des choses qui peuvent se faire avec des négociations et des traités, ou bien par la force. Alors, quelles seront les options? Maintenant, c'est la question que tout le monde se pose. Maintenant, les Européens, je sais que le Danemark, j'imagine qu'ils sont très inquiets. Panama a réagi déjà hier par rapport au canal de Panama. Donc, oui. Maintenant, il faut voir dans quelle direction les
Européens. Mais, Jean-Louis, les historiens estiment que Donald Trump est entré dans l'histoire en utilisant ce qui est historiquement un discours unificateur pour dépeindre un avenir avec lequel de nombreux Américains pourraient être en désaccord. Il y a Jérémy Souris de l'Université de Texas qui a dit « C'était moins un discours d'investiture qu'un discours sur l'état de l'Union. » Il s'est contenté d'énumérer une série de projets qu'il souhaitait entreprendre, de l'expulsion des immigrants à la récupération du canal de Panama.
Bon, il faut que l'administration Trump puisse comprendre que l'immigration a joué un rôle crucial de premier plan avant et même maintenant l'immigration continue. Il n'y a pas toujours seulement le côté négatif de l'immigration. Regardons du côté positif. L'immigration avant, ça a porté vraiment des gens qui ont travaillé dans ce pays.
Et il a dit aussi que lui n'est pas contre les immigrants qui viennent dans ce pays légalement, d'après lui. Ces immigrants qui viennent, il a besoin d'eux. Mais ceux qui viennent illégalement, il n'a pas besoin d'eux. C'est ce qu'il a en tout cas.
Mais parmi ceux qui viennent illégalement, il y a des intellectuels. Il y a une main d'œuvre qu'on doit aussi profiter, parce que c'est l'élite, parce que si vous regardez aujourd'hui l'Europe, le Canada, la population est très vieillissante. Le Canada est basé sur l'immigration. S'il n'y avait pas l'immigration, bon, le Canada devait disparaître.
Absolument.
C'est pourquoi j'ai dit que l'immigration a joué un rôle crucial dans le développement.
Dans le développement de l'Amérique.
Nous allons revenir dans un instant. On va passer à notre Word of the Day avec Michel Joseph. Comme on le fait chaque soir entre 20h et 21h, temps universel, n'allez nulle part ailleurs. C'est dans un instant. Et voilà, elle est déjà prête, Michel Joseph, nous offrant un mot, une expression en anglais. Hello, Michel.
Hello, Roger. Bonjour, Roger. Hello, everyone. Bonjour, tout le monde. The word of the day, save. Ça s'appelle en anglais S-A-V-E. En français, S-A-V-E. Sauver la vie de quelqu'un, épargner, économiser, réserver. The doctors did everything to save him. Les médecins ont tout fait. Pour le sauver, the prisoner was saved from execution. Le condamné à mort a été gracié. Did you save some money this month? As-tu pu économiser de l'argent ce mois-ci? Save your strength for later. Ménage tes forces. She saved him from embarrassment. Elle l'a tiré de l'embarras. Save it! I don't need to hear that right now. Retiens-toi, je ne veux pas entendre cela maintenant. Did you save the document on the computer? As-tu enregistré ton document sur l'ordinateur? The room was empty. Save for the guard. La pièce était vide à l'exception du garde. Save the last dance for me. Réserve-moi la dernière danse, s'il te plaît. Back to you, Roger.
Thank you very much, Miss Michelle Joseph. C'est l'anglais. Vous pouvez toujours retrouver toutes les leçons d'anglais de Michelle Joseph sur notre page Facebook, voafrica.com. Bien sûr, aussi sur notre site, voafrica.com. Vous trouverez toutes les leçons d'anglais pour continuer à perfectionner votre English. Et Jean-Louis qui nous a concocté les nouvelles, c'est dans un instant. Qui sont déjà là avec Jean-Louis Mafema. On écoute ce qu'il nous a préparé.
Au Gabon, le Parlement de transition a adopté hier soir le nouveau code électoral, étape clé vers le retour à un régime civil promis par la junte militaire qui a chassé au pouvoir la dynastie Bongo. Au Bénin, le procès de deux anciens alliés du président Talon, Olivier Boko et Oswald Umeki, accusés de complot contre l'autorité de l'État, s'est ouvert ce matin à Cotonou avant d'être reporté à mercredi. Au Soudan, 16 civils ont été tués et 18 autres blessés lundi dans un bombardement des paramilitaires des FSR contre un camp de déplacés à Al-Fasher, la capitale du Darfour Nord qui est assiégée depuis plus de 6 mois. En Côte d'Ivoire, au moins 15 personnes ont été tuées et 23 blessées ce matin dans une collision entre un camion et un car de 70 places à Ponant-Winlo, village situé à 32 km de Douekoué dans l'ouest.
Vous êtes nombreux à nous capter à Niamey, vous êtes nombreux à nous capter à Djibouti, vous êtes nombreux à nous capter à Dakar, au Sénégal, à Cotonou, au Bénin, à Lunda Norte. Nos amis qui nous captent à Lunda Norte, cette communauté francophone, on dit la fechtaïchta bonita, comme on aime le dire, bien sûr, dans RM Show. Et merci aux amis qui nous captent aussi ce soir à Bujumbura, à Kisangani, à Lubumbashi, nos amis qui nous captent à Pointe-Noire, on n'oublie pas nos amis de Kinshasa. Mokili Yayaoui. C'est votre commandant de bord Roger Mountou, la voix de l'Amérique en direct de Washington. D'ici la capitale américaine, la grande question, que pensez-vous de l'investiture du président américain? Cette investiture en tant que 47e président des États-Unis qui suscite des réactions variées à travers le monde. C'est votre émission RM Show, nous en parlons au plus 1-703-350-3731 en écoutant de la bonne musique. She don't love you. Elle ne t'aime pas, elle ne t'aime plus. C'est Eric Paisley.
She don't love you, she just lonely. She It wasn't once upon a time. She used to dance when the band played. She used to be the trust and kind. She's no stranger to believing. She's heard all the best goodbyes. A falling has a different meaning. To her, you're just another guy.
Vous écoutez Ramshow, une émission de Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. C'était Eric Pesley, Eric qui dit « She don't love you ». Ça, c'est Eric qui dit « She don't love you ». Merci beaucoup à cet artiste qui est super, super, super cool. On va voir Zappi Mohamed, un journaliste à Niamey. Il nous a appelé. On va voir si il pourra prendre son téléphone. Ben ouais, il est déjà là. Allô, voilà, il arrive. On va parler avec... Zappi, hein, s'il va nous prendre Jean-Louis. Zappi, il est à Niamey. Ouais, il est à Niamey, il nous écoute souvent. On va voir s'il pourra répondre à notre question de la semaine. Et d'ailleurs, je rappelle que la Zappi ne prend pas. On a vu aussi Michel qui nous appelle. Michel qui nous appelle, lui, de Lomé au Togo. Merci beaucoup, amis, qui nous captent aussi en ce moment où je vous parle. Ils sont nombreux à nous capter. Voilà, je vois, c'est Zappi. Lionel, on peut descendre un peu le cart, là. On peut descendre un peu le cart. Je maintenant Zappi.
Ouais, le grand Roger Monteau.
Zappi, comment ça va, mon frère? Ça va, comment ça va, Zappi?
Rapineur, je veux très bien.
Mais on a essayé de t'appeler de l'autre côté, on dit que ça ne marchait pas.
Non. C'est certainement le réseau. On va faire ça pour demain tranquillement.
Non, il n'y a pas de problème. Là déjà tu es en live. Là déjà tu es en direct. Hein. Ce n'est pas là déjà tu es en direct. Hein. Là on t'écoute.
Bah écoute, hein. Voilà. On va souhaiter bonne année 2025 à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique.
Merci.
Ouais. Et merci Roger Montout pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine.
Merci.
À Niamey, tu es suivi.
Ouais.
Et je profite de cette année 2025 pour dire aux différents patrons de la VOA qu'on aimerait bien suivre la deuxième partie. C'est vrai que il y a le ça, mais bon, on aurait bien voulu qu'il y ait une continuité. Mmh. Parce que c'est lorsque l'émission prend son envol qu'on nous coupe au niveau de Niamey.
Aïe, aïe, aïe. Et je sais qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup d'amis qui adorent le RM Show à Niamey, mais ils peuvent seulement capter la première partie.
La première partie, donc c'est une doléance que je fais au patron de la VOA qui m'écoute certainement.
Bien sûr.
Puisque nous aimons la VOA, je voudrais qu'ils essaient de voir dans quelles conditions pouvoir nous permettre d'écouter la deuxième partie. Mm. Parce que c'est une grande radio, on aime la VOA, on aime le personnel, on aime également le RM Show.
Merci infiniment en tout cas, Zappy, Mohamed, merci infiniment. Je rappelle aussi, comme on dit à Abidjan, que vous-même, vous n'êtes pas petit hein, là-bas. Zappy, c'est pas un petit là-bas, Agnès.
Oh là 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 là. Mais c'est Roger Montout le grand, En tout cas, bonne année 2025, beaucoup de santé, Happy New Year et que Dieu te donne la force de pouvoir nous faire plaisir.
Merci infiniment Zappy et bonne année aussi à toi et aussi à tous les amoureux de RM Show à Niamey. Merci à Zappy et bonne nuit chez toi.
Big up, à bientôt.
À bientôt. Voilà, ça c'était Zappy qui nous capte bien sûr à Niamey. On va voir si on peut aussi capter Michel, mais je ne sais pas s'il est là, Michel. Michel, il est de la radio, il nous capte. Ah, Michel, on va essayer de voir s'il va nous capter. Mais ils veulent aussi tous participer aussi à la question de la semaine. Jean-Louis, c'est quand même beaucoup de gens qui ont écrit hier. Ils étaient en train de suivre l'investiture du président américain. Ouais. Je ne sais pas si on peut avoir le mieux. Voilà.
Mais dis, toi qui étais là dans la rue sous le froid là.
Oui.
Comment c'était et qu'est-ce qui t'a plus impressionné de toute cette cérémonie là quoi? Qu'est-ce qui t'a
vraiment impressionné? C'est ce que Jean-Thierry Voix dit, la sécurité d'abord. La sécurité, comme Jean a si bien dit, et lui, c'est la première fois qu'il arrive ici aux États-Unis pour participer à ça, et il dit que c'est la première fois, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que même nous aussi, c'est la première fois de voir une sécurité
à ce niveau-là.
Donc la sécurité, c'était, voilà, d'ailleurs, merci à Lionel qui est en train de montrer les photos quand j'étais en train de découvrir pour nos amis.
Ça se voit que tu as
monsieur. Mais il faisait tellement froid, et comme Jean l'a dit, il y avait beaucoup de barrières, mais en dehors de ces barrières-là, Jean peut témoigner, il y avait beaucoup de monde qui était venu en tout cas qui était aux alentours, n'est-ce pas, pour juste être dans la ville.
J'ai vu le cortège des véhicules qui passaient là.
Des véhicules étaient là, je ne sais pas s'il y a ces photos là ou ces images, là à l'entrée même où le président faisait son entrée. Je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas, Dieu seul sait, parce que j'étais presque pratiquement la seule personne, on était peut-être à deux ou trois, d'arriver là à l'entrée, et le service secret m'ont laissé jusqu'à l'entrée principale, donc j'ai pu filmer l'entrée du cortège présidentiel quand il est arrivé très tôt le matin pour déjà rencontrer le président sortant.
Ils ont pris apparemment
ils ont pris un thé ensemble.
Ils ont été à la messe.
Ouais, ils ont été à la messe.
Ils sont venus dans le même véhicule. C'est pour dire que vous voyez, il y a la politique. On peut s'affronter politiquement, mais humainement, on reste humain. Les vieux, ils ont bavardé, sûrement, ils se sont donné des conseils.
Un exemple de la démocratie à suivre, Jean-Chibé, parce qu'on a vu tous les autres présidents qui sont venus participer à l'investiture démocrate ou républicaine. Ils étaient là, et même la vice-présidente Kamala Harris, qui était politiquement parlant, mais elle était là. C'est un exemple à suivre, vous direz?
Oui, c'est une des raisons que nos dirigeants africains doivent faire très attention de pouvoir comprendre que les temps changent et la mentalité change aussi. En revenant d'abord de ce que je vis hier sur le visage de la population, j'étais en face de la population qui aimait son président. Après l'investiture, Il y a eu des gens qui sont allés faire le tour à la Maison Blanche. J'ai vu des gens sous le froid. C'est quand je vous ai laissé, c'est là où j'ai vu Bezos.
Je vis le CEO de, ouais, de Amazon.
Bezos, vraiment, c'est là où je le vis en face.
Wow.
Oui, je le vis et puis je le fais de même.
Ouais.
Il y avait beaucoup de gens qui pourraient
venir. Oui, il a eu des plus grandes maisons ici à Washington.
Ouais. Donc, en revenant à la politique africaine, que chaque président puisse savoir que lorsqu'on exerce un mandat, il y a des limites, il y a le temps. Lorsqu'on finit, selon la Constitution, on laisse la place.
Oui.
Mais on reste, comme Jean l'a dit, nous sommes des humains. La politique, c'est un jeu. Tout vient au pouvoir pour maintenir leur programme. Mais si le programme n'arrive pas à la fin, mais les hommes passent, mais les institutions restent. Oui. C'est là où ceux qui étudient maintenant en politique, en Afrique, tout ça, qui sont députés, doivent savoir qu'on n'est pas député président éternellement. Lorsqu'on finit, on peut aussi aider le pays, mais en étant en dehors. Par les conseils. Regardez dans beaucoup de pays, lorsque le président termine leur mandat, mais ils deviennent des conseillers stratégiques dans des entreprises.
Exactement.
Mais c'est seulement en Afrique où on voit quand quelqu'un va, son mandat termine, il va encore retourner.
Ça, oui, 4, 5, 6 mandats.
C'est une maladie. Oui. Quand tu as déjà fait 7 ans, 8 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire encore? Mais vis l'âge que tu as encore.
Oui, et surtout que les choses évoluent tellement vite dans ce monde actuel. Les présidents d'il y a 10 ans n'avaient pas à gérer des choses comme la publicité sur TikTok, les réseaux sociaux. Les choses changent, donc il faut toujours une âme qui est fraîche, qui est prête à gérer les nouvelles conditions de vie. Vous voyez, aujourd'hui, les présidents se rencontrent avec des choses qu'il y avait 15 ans, il n'y avait pas. Moi, quand je suis arrivé dans ce pays-ci, on avait encore le téléphone dans la rue, là, vous savez, les cabines téléphoniques, ça n'existe plus aujourd'hui. Il y avait des règles et des lois pour ça, mais ça, ils ont effacé ça parce qu'il y a autre chose. Il faut évoluer, effectivement, comme vous le dites, et faire les choses de manière réaliste. À un certain âge, la vie, c'est une course de relais.
Ouais.
Vous avez couru, vous passez le relais aux autres qui vont continuer la course. Et vous, vous restez derrière pour conseiller et pour être le motivateur pour continuer à pousser les jeunes à aller de l'avant. Toujours.
Aller de l'avant, c'est très important.
Ouais.
Hunting, Fishing and Loving Every Day, c'est la chanson de Luke Bryan qu'on va écouter en ce moment. Nous revenons dans un instant pour parler aussi de notre groupe qui fait parler de lui-même. On écoute cette superbe chanson.
Late in the evening, 12 miles. Let's go there in our minds. 150 and loving every day. That's the friend this country boy makes. Thank God he made me this way. 150 and loving every day. Black coffee in the morning. Dark whiskey in the evening. I get richer, rich, clearer in the pain. 150 and loving every day.
RM Show, une émission de Verbrick en direct de Washington, D.C., la capitale américaine. Merci aux amis qui sont en train de nous capter ce soir à Cocody, à Abidjan. Merci beaucoup aux amis qui sont en train de nous capter à Kings en Vouette. Est-ce que tu te rends compte que les gens m'ont écrit de Kings en Vouette, Jean-Louis? Ils m'ont écrit de Kings en Vouette aujourd'hui. Je me suis dit, waouh.
C'est
ouais.
Partout, quoi.
Ah oui, exactement.
C'est comme une carte Visa.
Ouais.
On la trouve partout.
On la trouve partout, hein. Exactement. Écoutez, l'investiture de Donald Trump, c'était aussi les le Village People. Tu connais un groupe que tu connais bien?
Bien sûr, des années 60. 15, 12,
exactement.
Ouais, ils ont, ouais.
Exactement. Alors, certains les ont traités de traîtres, la honte, le chèque a dû être énorme. Donc, la participation de Village People au concert pour Donald Trump a fait enrager les internautes. Je ne sais pas si toi t'as pu voir ça, mais non, c'était trop fort. Alors que Donald Trump redevient officiellement, on le dit ici, président des États-Unis le lundi dernier, donc hier, plusieurs artistes se sont produits lors de Liberty Bowl organisé pour l'occasion. Un choix d'ailleurs qui a fait enrager les internautes, c'était l'influence du groupe au sein de la communauté LGBTQIA+. Après un concert du premier meeting de Donald Trump, The Village People se sont de nouveau présentés sur scène, un nouveau président des États-Unis le lundi janvier. Le groupe fait partie de nombreux artistes sollicités par l'homme politique pour célébrer sa victoire sur Kamala Harris. Un choix étonnant compte tenu de ce que le groupe représente. Et,
c'est vrai.
Exactement, un groupe qui avait pourtant soutenu aussi Kamala Harris. Le choix de Donald Trump de se tourner vers le Village People en a surpris plus d'un. D'abord parce que le groupe a longtemps été associé à la communauté LGBTQI, YMCA. On connaît d'abord les chansons,
ouais,
même devenu l'hymne queer, si je dirais. Mais aussi parce que Victor Willis, un des chanteurs et le patron du groupe, avait soutenu Kamala Harris lors de sa campagne présidentielle. Donc c'était un peu une certaine polémique.
Une vraie controverse.
Ouais. On écoute cette chanson de Village People, YMC, et nous revenons dans un instant.
The
bien sûr, vous écoutiez Ramchou, une émission de Afrique, cette chanson que vous écoutez, Village People. Jean-Louis, je sais que tu voulais un peu réagir à cette... en tout cas, c'est la déception des internautes. Hein, la publication Facebook du groupe n'a pas du tout été bien accueillie par bon nombre des fans de Village People. Vous ne pouvez pas mettre la politique de côté lorsque ce sont ces mêmes politiques qui privent les LGBT, les femmes et d'autres de leurs droits. C'est cette communauté qui était un peu fâchée.
Ouais, c'est compliqué, quoi. Au fait, eux, quand ils avaient fait la chanson, il y a combien d'années? Dans les années 70, il n'y avait pas... ça, c'est ceux qui pensent aujourd'hui, c'est ça, c'est leur manière de penser aujourd'hui. Mais eux, quand ils ont fait leur chanson, c'était pas ça, l'esprit, au fait. Et nous, on était petits, mais on l'a pas pris comme ça. Pour nous, on voyait, tiens, il y a un ouvrier, un marin, et tout. Non, c'est un peu les métiers.
Ouais, pour nous,
quand on était petits, c'était les métiers. On ne pensait pas que c'était, ça allait avoir une telle influence. Eux, ils lisent ça tout à fait différemment.
Ouais. Ça montre aussi que la culture, la musique,
les artistes,
enfin, comme on le voit dans d'autres pays, hein, genre on a vu par exemple en RDC où le peuple réclamait que le chanteur puisse aussi parler des malheurs que traverse le peuple, des souffrances que vivent le peuple. Donc les artistes, ils ont aussi beaucoup à faire quand il s'agit de la politique, alors.
Oui, ça fait partie aussi de la politique. Et surtout quand on a un groupe politique, il y a des stratégies qu'il faut mener. Il y a aussi la culture qui joue un grand rôle.
Oui.
Ces gens-là, de musiciens, ils ont des gens derrière eux.
Oui.
Ils ont des fanatiques.
Oui.
Maintenant, dans la stratégie politique, ce n'est pas si Donald Trump n'est pas pour ça, mais il y a des gens qui sont pour. Ils doivent égaliser. C'est la politique, c'est l'ensemble. C'est le parti conservateur ou le parti démocratique ou n'importe quel parti. Il y a toujours des gens, des tendances différentes.
Des tendances différentes.
Alors c'est là, lorsqu'il y a une réunion stratégique qu'il faut faire pour la culture, il faut vraiment regarder tout ce qui est comme politique, idée de chacun pour égaliser, ne pas être dans la politique comme nous parlons de la démocratie, c'est éviter d'être celui qui dicte. J'ai dit ceci, mais il faut toujours égaliser. Voilà pourquoi il y a un consensus. Et dans ce consensus, tu peux être, tu n'aimes pas, mais comme la plupart disent, mais tu abandonnes.
Ouais, mais c'est ça, le
être plus prêt à abandonner.
Ouais, le plus difficile, tu sais, dans la liberté d'expression, c'est
oui,
ça.
Oui.
Parce que l'autre a une opinion qui n'est peut-être
pas la tienne.
Mais il a la liberté de choisir cette direction.
Alors, le président Donald J. Trump, je le disais aussi, a signé ce lundi plusieurs décrets, entre autres un décret qui suspend temporairement, Jean Tchiboué, tous les programmes d'aide étrangères des États-Unis pendant 90 jours, hein, le temps qu'ils soient examinés pour déterminer s'ils sont conformes à ces objectifs politiques, en tout cas. Il y a le journaliste, analyste politique Luma Gloire Kemayou qui a dit ce matin au micro de notre collègue à Alexandrine Ollognon que cette décision n'est certes pas une bonne nouvelle, mais elle place les pays africains face à leurs responsabilités quant à la gestion de la dette et de l'enjeu au développement. Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est justement, je fais la développement international. Le pays africain doit d'abord se prendre eux-mêmes en charge. Commencer d'abord le développement à partir du pays, au lieu, comme je l'ai dit au commencement, de tendre toujours la main. Mais couper d'un coup comme ça l'aide étrangère, non, parce que vous savez, ça fait longtemps que c'était à acheminer. La population ou le pays sont déjà habitués. Mais il fallait, quand on coupe, il faut remplacer quelque chose. Et vous ne pouvez pas couper tant que ce peuple-là, on ne les a pas donné ce qui va développer leur pays. Parce que le développement, nous parlons de la santé, de l'école, nous parlons de l'éducation, disons. Il faut aller avec cela peu à peu. Et la politique, là, dans la politique, il faut éviter aussi les shows. Parce que dans le président Trump, il y a aussi des choses.
Il a fait la télévision.
Je connais. Je connais quand il avait dit maman, j'ai raté l'avion. Je voyais comment ça me venait. Parfois, lorsqu'il prend, c'est une sorte de bonne stratégie. Vous savez,
Il veut voir quelque chose, mais il applique, c'est sa manière.
C'est sa manière.
Mais si tu tombes dans son piège,
ouais,
tu perds tout. Il gagne.
Il gagne.
Moi, je crois que la chose, c'est que les pays africains utilisent votre diaspora. Comme la Corée l'a fait, c'est la diaspora qui a développé la Corée.
On va finir en tout cas, moi, avec les images qui m'ont marqué. Ce sont les images de la première dame. Pour les images qui vont peut-être circuler, on va voir. Regardez comment notre première dame était habillée. Bravo à notre première dame.
Nous, on l'appelle.
Non. En tout cas, la première dame était habillée quand même.
Comme italienne ou
quoi. Ah oui.
Non, mais vraiment, là, c'était la star.
C'était vraiment.
C'est une ancienne fashion.
Ça va être dans le monde.
Oh oui, oui, c'est parti. Dans le monde, déjà, tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux.
Jackie, on a quitté le temps moderne.
De Mélanie à la première dame, comment elle est habillée.
Mais c'est chic, hein.
C'était vraiment chic, c'était la classe.
Ouais, vraiment.
Ouais. J'ai vu beaucoup de gens qui ont beaucoup admiré ça et les réseaux sociaux ont fait des qu'en parler, dit non. C'était simple, mais nickel, comment dire.
Avec ça, imagine pas, c'est classique.
Ouais, tellement classique, comme on dit.
Elle veut montrer qu'elle est la première dame des États-Unis.
Ah oui, ça.
Elle est l'exemple, elle donne l'exemple.
Ah, ça, c'est votre côté communicationnel qui parle. Ouais.
Elle donne l'exemple, c'est-à-dire. Le visuel, tout ce qu'on porte, l'habillement.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui a travaillé sur
ça. Jean Chebet, merci infiniment d'être passé de voir. Merci à VOAFIX. C'est un grand plaisir, c'est un honneur, c'est historique que vous soyez là avec nous. Merci beaucoup à Lionel Ronanira Gaïma. Merci à Dan. Thank you, Dan. Thank you, Bob. Merci beaucoup à Tian Wang, à tout le monde qui a participé à cette émission. Please don't go, we gotta go. Je peux que dire jobless. Peace, Africa.